Salut les Hostzouz, j'ai hâte de vous retrouver tout à l'heure à 18h sur Instagram pour le live consacré à la loi Pacte. On va parler.
C'est des lives Insta, toi.
Ouais, c'est un live avec Gabriel Attal, Thibaut InShape, Swan et Neo et le Raptor Dissident.
Mais pourquoi tu fais ça?
Bah, c'est payé 8000 balles.
Salut Gabi!
Salut Gabriel, super content de te retrouver pour ce live. On va parler de la taxe d'habitation, ça va être passionnant.
J'adore les habitations.
Les habitations, c'est notre
excellent.
Dada.
Bon, commençons par un petit point sur le confinement, le reconfinement, le déconfinement, le couvre-feu, tout ça, on en est où?
Bah, on sait pas trop parce qu'on tourne vendredi en fait, donc si ça se trouve là on est en confinement serré, confinement allégé, confinement mi-cuit, on sait pas.
On sait pas, on va demander à Usul du futur qui lui est dimanche.
Oui, pauvre mortel, j'ai traversé le temps pour vous éclairer de mes lumières.
Ça fait peur, hein?
Ouais.
Les bars sont ouverts, tout est fini, le virus a disparu samedi en fin d'après-midi.
Ah bah ça va, c'est cool.
C'est une blague du futur. Non, on n'est pas confiné, mais en gros, on a compris qu'on allait l'être quand même un petit peu plus tard.
Ouais, non, c'est pas cool au final.
Et non, c'est pas cool. Tout le monde en a plein le dos, il y en a même qui commencent à faire n'importe quoi.
Liberté !
Et surtout, la santé mentale des Français se dégrade, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui.
Les urgences sont saturées, et ça je l'entends de tous les côtés, de personnes qui sont en état de stress aigu, si vous voulez, d'anxiété généralisée, d'abattement, de dépression, d'hébétitude, et même on voit émerger des états délirants chez des personnes qui n'avaient pas d'antécédents psychiatriques, parce que avec toutes ces annonces contradictoires, toutes ces fake news qui circulent sur les réseaux, toutes ces théories du complot qui sortent de tous les côtés, il faut avoir l'esprit bien accroché pour ne pas commencer à entrer dans des idées un peu délirantes ou farfelues.
Hein ? Ce n'est pas nouveau, on parlait déjà des effets psychologiques du premier confinement. Cet extrait, par exemple, date du mois de juin.
Il y a de nouveaux patients qui ont été exposés pendant le confinement au stress, à l'isolement social, à des difficultés de sommeil, aux addictions dont vous parliez tout à l'heure, qui sont en train de développer des troubles anxieux sévères et des troubles dépressifs. Et une troisième nouvelle population de patients qui sont les soignants, qui ont bien sûr eu un surcroît de travail, mais qui ont aussi vécu des situations très traumatisantes et qui ont besoin de soins psychologiques et psychiatriques.
Inutile de préciser que ça s'est pas arrangé. Pour contrer le virus, il s'agissait de nous empêcher de nous rassembler.
Enfin, sauf pour travailler et pour consommer, évidemment.
Bien sûr. Donc, on s'en est pris au temps qu'on accordait jusque-là à la socialisation. Les boîtes de nuit n'ont jamais rouvert, les bars ont refermé, et avec le couvre-feu à 18h, il s'agissait de s'en prendre à l'effet apéro.
Est-ce que t'as des exemples de socialisation sans alcool, peut-être?
Non.
Toutes ces privations ont contribué à installer chez tout le monde un sentiment d'intense solitude. Je pense qu'on est d'accord, mais au cas où vous seriez pas d'accord, bah on a trouvé un psy très convaincant sur YouTube là, qui va nous confirmer ça.
Alors on dirait un peu un mec en cosplay de psy.
Ah oui, bah c'est le nœud papillon, ça fait pas très sérieux. Quoi. Oui.
T'es sûr que c'est un vrai psy?
Oui, c'est un vrai médecin de type psy, contrairement à Jérôme Cahuzac, qui est un médecin de type vol. Jean-Baptiste Alexanian est psychiatre et il confirme le lien entre confinement et solitude.
Oui, il y a un lien entre le lockdown, le confinement et l'augmentation du sentiment de solitude.
Il se base sur une étude américaine et nous dit que ce sentiment de solitude n'est pas anodin, il peut avoir de lourdes conséquences.
Il y a un lien direct entre le sentiment de solitude exprimé et le niveau d'idées suicidaires et le niveau de dépression, hein, qui a aussi un lien statistique extrêmement fort.
Ouais, enfin, ça paraît quand même relativement évident ce qu'il dit.
Oui, mais lui, il a une étude américaine, quoi. Et un nœud papillon!
Pour les patients dont les troubles étaient déjà connus, la situation est particulièrement difficile. Mais l'isolement a également affecté de nouveaux publics, dont bien sûr les étudiants.
Et donc nous, on voit apparaître des étudiants pour lesquels les stages qui étaient prévus, par exemple, en entreprise sont annulés. Je pense à un jeune qu'on a reçu la semaine dernière et qui s'est retrouvé donc à ne pas avoir son stage, à une espèce de néant devant lui. Une montée d'angoisse, raptus suicidaire, il a fait une tentative de suicide.
Chez ces jeunes, le suicide est déjà la deuxième cause de mortalité. La sortie de l'adolescence est une période délicate dans laquelle on se construit un rapport au monde, notamment grâce aux autres. Et quand on ne voit ni les autres ni le monde, c'est bien plus compliqué de trouver sa place.
Ajoutez à ça la pression des examens, la précarité matérielle et puis tout simplement la peur de l'avenir.
On est à une période où on nous demande de penser au long terme, on nous demande de penser au moyen terme, on nous demande de penser au après. Toutes ces questions-là, c'est infiniment angoissant d'y réfléchir. sur une période où tout change d'une semaine à l'autre, où les règles de vie commune changent du tout au tout d'une semaine à l'autre, où effectivement on est forcé de réfléchir au temps court.
Les étudiants, comme les plus précaires et les plus fragiles, sont particulièrement frappés par une autre épidémie, l'épidémie d'une maladie qui était déjà structurellement présente là depuis longtemps, la dépression.
On rappellera quand même que selon l'OMS, la dépression c'est la première cause d'incapacité dans le monde. Voilà, c'est-à-dire qu'on va augmenter de manière significative quelque chose qui est déjà la première cause d'invalidité dans le monde. Voilà.
Face à cette situation, une petite musique commence à monter. Est-ce qu'il ne serait pas mieux de laisser vivre un peu les gens, de vivre avec le virus, et puis tant pis pour les vieux, hein, laissons ça circuler.
Sur le plateau d'LCI, Jean-Michel Apathy a essayé de démontrer que ça ne pouvait pas être une solution. Et pourtant, lui-même avait été ému par la vidéo de Gaspard, une vidéo vue plus de 2 millions de fois sur Instagram.
C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Formule du gouvernement qui navigue à vue d'œil depuis des mois, les médias et les politiques s'étonnent du désintérêt de notre génération lors des rendez-vous électoraux. Mais dans leur bouche, nous étions tous à cette rave party bretonne. Pourtant, quand je marche dans la rue, les sans masques sont souvent des aînés réfractaires. À quoi sert-il de vivre? Si c'est pour vivre terré, sans culture, sans rencontre. Génération sous antidépresseur, je m'interroge.
Pas de solution. Donc cet étudiant dit, voilà, c'est on n'en peut plus c'est de vivre dur. Comme ça.
Mais Apathy rappelle que même s'il comprend la détresse des étudiants, pour lui le confinement est inéluctable. Il prend l'exemple des pénuries de cercueils en Allemagne ou en Italie, et il parle aussi des gens qui pourraient mourir d'autre chose pendant la pandémie de Covid à cause du manque de place et de personnel dans les hôpitaux.
Parce que l'appareil sanitaire est submergé. C'est ça la réalité.
C'est ça la réalité de nos hôpitaux.
On n'échappera pas au reconfinement, on ne le dit pas avec plaisir, mais parce que sinon on fera mourir des gens par égoïsme.
D'ailleurs, le Premier ministre est sur la même ligne. Il a même appelé Gaspard pour lui faire part de sa sollicitude.
C'est qui le Premier ministre?
On regarde l'extrait.
Et il a ému Jean Castex, qui pourtant est favorable à un confinement. Ouais. On écoute Jean Castex qui a précisément appelé l'étudiant.
Bonjour Gaspard, c'est Jean Castex.
Jean Castex. Donc il faut gérer les effets du Covid par un confinement, mais il va falloir gérer les effets du confinement sur la santé mentale des gens.
Et c'est ce que nous dit le Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres.
En français, s'il te plaît.
Antoine Gouttière.
Après des décennies de négligence et de sous-investissement dans les services psychiatriques, la pandémie de Covid-19 inflige aux familles et aux populations un stress supplémentaire. Les plus à risque sont les soignants en première ligne, les plus âgés, les adolescents et les plus jeunes, ceux qui souffraient déjà de troubles psychiatriques et ceux piégés par la guerre ou la crise. Nous devons les aider et rester à leur côté.
Et ce qui est particulièrement terrible dans l'émergence de tous ces nouveaux troubles chez les Français, c'est que ces troubles psy, on sait les soigner.
Ne renoncez pas aux soins, je vous en supplie, prenez-vous en charge. C'est pas comme si l'anxiété ou la dépression, ça soignait pas, ça soigne extrêmement bien, mais vraiment extrêmement bien. Toute la littérature scientifique le dit, prenez soin de vous, il y a vraiment plein de choses à faire pour ça. Ok, vous pouvez pas changer le nombre de lits en réa, ok, il y a plein de choses dont on vous parle auxquelles vous y pouvez rien. Vous-même, vous soignez vous-même, vous le pouvez, et on a des très bonnes solutions pour ça.
Il a raison, si vous pouvez vous soigner, faites-le, la dépression c'est pas honteux, les idées noires, on a des moyens pour les chasser.
Oui, enfin bon, après les centres médico-psychologiques, de toute façon ils sont pleins à craquer.
Les psychologues ne sont toujours pas remboursés par la sécu, le nombre de lits dans les services psychiatriques est en chute libre depuis 20 ans, la médecine psychiatrique est le parent pauvre de notre système de santé, elle manque de moyens, et ça le petit chèque de Frédéric Vidal n'y changera pas grand-chose.
Non mais on dit aux gens de se soigner.
Oui, mais oui, mais moi je dis au gouvernement de faire en sorte que les gens ils puissent se soigner.
Il va falloir traiter ce problème. Sérieusement, c'est presque un enjeu de civilisation. Les pays développés ont massifié l'usage des antidépresseurs. On parle de sociétés atomisées dans lesquelles le lien social est distendu et le travail rendu pénible par la pression managériale et la peur du chômage.
La pandémie a accentué cette anomie, ce manque de solidarité, ce manque de confiance dans l'avenir. Et cette détresse des individus, elle n'est pas seulement intime, elle est sociale en fait. Elle est sociale et elle est politique. Il y a toute une réflexion politique à engager autour de ces questions. Pourquoi fait-on société? Vers où on va? Comment ?
Mais le gouvernement, il s'en fout de ça, il veut pas faire société, il veut qu'on travaille. Essaye de parler en termes de PIB un peu.
Oui, bah oui, on va parler le langage qu'ils comprennent, oui, donc PIB, croissance...
En France, en 2017, les dépenses de l'assurance maladie liées à une maladie psychique ou à un traitement chronique par psychotrope dépassaient les 20 milliards d'euros. Second poste budgétaire après les hospitalisations ponctuelles. Bien au-dessus des frais engagés pour soigner les maladies cardiovasculaires ou les cancers.
Non seulement traiter ces troubles va nous coûter cher pendant et après la crise sanitaire, mais en plus de ça, il y a toute une partie de la population dont la force de travail sera affectée.
Ah bah là, tu tiens un truc.
Bah oui, parce que si on pense en termes d'arrêt maladie, d'accident du travail et de productivité, l'épidémie de dépression et va tomber pile quand on aura besoin de relancer la machine économique. Et pour ça, bah, on va avoir besoin de têtes et de bras aptes à travailler.
Que penser de toute façon d'une société qui met ses enfants sous Ritaline pour qu'ils supportent leur scolarité, qui laisse ses étudiants se blinder de cachets pour supporter les examens, qui fait peser sur les femmes une telle charge qu'elles sont deux fois plus nombreuses que les hommes à subir des épisodes dépressifs au cours de leur vie? Que penser d'une société dont les dirigeants semblent ignorer la détresse psychologique des populations qu'elle exploite à force de ne les considérer que comme des chiffres, des poids et des charges? Il va falloir regarder en face tout ce mal-être, et pas seulement celui né des confinements successifs. Il va falloir soigner beaucoup de monde, bien sûr, mais on va aussi devoir se demander comment construire des institutions du bien-être, de la vie bonne. Il va falloir changer la vie, comme on disait, non pas pour faire advenir je ne sais quelle utopie, mais au moins pour rendre le monde vivable. On ne peut pas vivre sereinement dans un monde qui nous demande de nous adapter en permanence, d'être à la fois performant, résilient et de se dépasser à chaque occasion. Les nouvelles règles de Castex toutes les deux semaines nous ont plongé dans une forme de précarité émotionnelle, mais avant le Covid. Le marché du travail et ses injonctions permanentes à la compétitivité, donc à la compétition, avaient largement commencé le boulot. Il faut être flexible, il faut s'adapter, cette précarité est devenue la norme, si ce n'est l'idéal. Mais ce qui est bon pour les entreprises, les marchés et la bourse, est-il nécessairement bon pour l'équilibre psychologique des grands singes hypersociables et pétris d'émotions que nous sommes ? Le capitalisme a, dans le même geste, épuisé les populations et détruit leur système de santé. Voilà qui explique pourquoi nous risquons de mettre du temps à nous remettre de cette crise systémique, à moins qu'on ne trouve vite un vaccin contre la solitude et la dépression. Auquel cas, tout le monde pourra continuer à travailler normalement, puisque c'est ça qu'on attend de nous.
Et vous connaissez le proverbe, hein ? Être en bonne santé dans une société malade, c'est être quand même malade, je crois que c'est ça. Hein ? À lundi prochain. Les cinémas.
Quoi, les cinémas?
C'est un lieu de socialisation où il n'y a pas d'alcool. Ouais, j'ai trouvé.